Livre 1, troisième partie. Mon maître, Monsieur Ducommun, était un jeune homme rustre et violent, qui vint à bout, en très peu de temps, de ternir tout l'éclat de mon enfance, d'abrutir mon caractère aimant et vif, et de me réduire, par l'esprit ainsi que par la fortune, à mon véritable état d'apprenti. Mon latin, mes antiquités, mon histoire, tout fut pour longtemps oublié. Je ne me souvenais pas même qu'il y eût eu des Romains au monde. Mon père, quand je l'allais voir, ne trouvait plus en moi son idole. Je n'étais plus pour les dames le galant Jean-Jacques. Et je sentais si bien moi-même que monsieur et mademoiselle Lambercier n'auraient plus reconnu en moi leur élève, que j'eus honte de me représenter à eux, et ne les ai plus revus depuis lors. Les goûts les plus vifs, la plus basse polissonnerie, succédèrent à mes aimables amusements, sans m'en laisser même la moindre idée. Il faut que, malgré l'éducation la plus honnête, j'eusse un grand penchant à dégénérer, car cela se fit très rapidement, sans la moindre peine, et jamais César si précoce ne devint si promptement la ridon. Le métier ne me déplaisait pas en lui-même. J'avais un goût vif pour le dessin, le jeu du burin m'amusait assez. Et comme le talent du graveur pour l'horlogerie est très borné, j'avais l'espoir d'en atteindre la perfection. J'y serais parvenu peut-être si la brutalité de mon maître et la gêne excessive ne m'avaient rebuté du travail. Je lui dérobais mon temps pour l'employer en occupation du même genre, mais qui avait pour moi l'attrait de la liberté. Je gravais des espèces de médailles pour nous servir, à moi et à mes camarades, d'ordre de chevalerie. Mon maître me surprit à ce travail de contrebande et me roua de coups, disant que je m'exerçais à faire de la fausse monnaie, parce que nos médailles avaient les armes de la République. Je puis bien jurer que je n'avais nulle idée de la fausse monnaie et très peu de la véritable. Je savais mieux comment se faisaient les as romains que nos pièces de 3 sous. La tyrannie de mon maître finit par me rendre insupportable le travail que j'aurais aimé et par me donner des vices que j'aurais haïs, tels que le mensonge, la fainéantise, le vol. Rien ne m'a mieux appris la différence qu'il y a de la dépendance filiale à l'esclavage servile que le souvenir des changements que produisit en moi cette époque. Naturellement timide et honteux, je n'eus jamais plus d'éloignement pour aucun défaut que pour l'effronterie. Mais j'avais joui d'une liberté honnête qui seulement s'était restreinte jusque-là par degrés et s'évanouit enfin tout à fait. J'étais hardi chez mon père, libre chez monsieur Lambercier, discret chez mon oncle. Je devins craintif chez mon maître. Et dès lors, je fus un enfant perdu. Accoutumé à une égalité parfaite avec mes supérieurs dans la manière de vivre, à ne pas connaître un plaisir qui ne fût à ma portée, à ne pas voir un mais dont je n'eusse ma part, à n'avoir pas un désir que je ne témoignasse, à mettre enfin tous les mouvements de mon cœur sur mes lèvres, qu'on juge de ce que je dus devenir dans une maison où je n'osais pas ouvrir la bouche, où il fallait sortir de table au tiers du repas et de la chambre aussitôt que je n'y avais rien à faire, où, sans cesse enchaîné à mon travail, je ne voyais qu'objet de jouissance pour d'autres et de privation pour moi seul, où l'image de la liberté du maître et des compagnons augmentait le poids de mon assujettissement, où, dans les disputes sur ce que je savais le mieux, je n'osais ouvrir la bouche, où tout, enfin, ce que je voyais devenait pour mon cœur un objet de convoitise, uniquement parce que j'étais privé de tout. Adieu l'aisance, la gaieté, les mots heureux, qui jadis, souvent dans mes fautes, m'avaient fait échapper au châtiment. Je ne puis me rappeler sans rire qu'un soir chez mon père, étant condamné pour quelque espièglerie à m'aller coucher sans souper, et passant par la cuisine avec mon triste morceau de pain, je vis et flairai le rôti tournant à la broche. On était autour du feu. Il fallut en passant saluer tout le monde. Quand la ronde fut faite, lorgnant du coin de l'œil ce rôti, qui avait si bonne mine et qui sentait si bon, je ne pus m'abstenir de lui faire aussi la révérence, et de lui dire d'un ton piteux « Adieu, rôti !» Cette saillie de naïveté parut si plaisante qu'on me fit rester à souper. Peut-être eût-elle eu le même bonheur chez mon maître, mais il est sûr qu'elle ne m'y serait pas venue, ou que je n'aurais osé m'y livrer. Voilà comment j'appris à convoiter en silence, à me cacher, à dissimuler, à mentir, et à dérober enfin. Fantaisie qui jusqu'alors ne m'était pas venue, et dont je n'ai pu depuis lors bien me guérir. La convoitise et l'impuissance mènent toujours là. Voilà pourquoi tous les laquais sont fripons, et pourquoi tous les apprentis doivent l'être. Mais dans un état égal et tranquille, où tout ce qu'ils voient est à leur portée, ces derniers perdent en grandissant ce honteux penchant. N'ayant pas eu le même avantage, je n'en ai pu tirer le même profit. Ce sont presque toujours de bons sentiments mal dirigés qui font faire aux enfants le premier pas vers le mal. Malgré les privations et les tentations continuelles, j'avais demeuré plus d'un an chez mon maître sans pouvoir me résoudre à rien prendre, pas même des choses à manger. Mon premier vol fut une affaire de complaisance, mais il ouvrit la porte à d'autres qui n'avaient pas une si louable fin. Il y avait chez mon maître un compagnon appelé M. Véra, dont la maison, dans le voisinage, avait un jardin assez éloigné qui produisait de très belles asperges. Il prit envie à M. Véra, qui n'avait pas beaucoup d'argent, de voler à sa mère des asperges dans leur primeur et de les vendre pour faire quelques bons déjeuners. Comme il ne voulait pas s'exposer lui-même et qu'il n'était pas fort ingambe, il me choisit pour cette expédition. Après quelques cajoleries préliminaires, qui me gagnèrent d'autant mieux que je n'en voyais pas le but, il me la proposa comme une idée qui lui venait sur le champ. Je disputais beaucoup. Il insista. Je n'ai jamais pu résister aux caresses. Je me rendis. J'allais tous les matins moissonner les plus belles asperges. Je les portais au molard, où quelques bonnes femmes, qui voyaient que je venais de les voler, me le disaient pour les avoir à meilleur compte. Dans ma frayeur, je prenais ce qu'elles voulaient me donner. Je le portais à M. Véra. Cela se changeait promptement en un déjeuner dont j'étais le pourvoyeur et qu'il partageait avec un autre camarade. Car pour moi, très content d'en avoir quelques bribes, je ne touchais pas même à leur vin. Ce petit manège dura plusieurs jours sans qu'il me vînt même à l'esprit de voler le voleur et de dîmer sur M. Véra le produit de ses asperges. J'exécutai ma friponnerie avec la plus grande fidélité. Mon seul motif était de complaire à celui qui me la faisait faire. Cependant, si j'eusse été surpris, que de coups, que d'injures, quel traitement cruel n'eussais-je point essuyé, tandis que le misérable, en me démentant, eût été cru sur sa parole. Et moi, doublement puni pour avoir osé le charger, attendu qu'il était compagnon, et que je n'étais qu'apprenti. Voilà comment, en tout état, le fort coupable se sauve aux dépens du faible innocent. J'appris ainsi qu'il n'était pas si terrible de voler que je l'avais cru, et je tirai bientôt si bon parti de ma science que rien de ce que je convoitais n'était à ma portée en sûreté. Je n'étais pas absolument mal nourri chez mon maître, et la sobriété ne m'était pénible qu'en la lui voyant si mal gardée. L'usage de faire sortir de table les jeunes gens quand on y sert ce qui les tente le plus me paraît très bien entendu pour les rendre aussi friands que fripons. Je devins en peu de temps, l'un et l'autre, et je m'en trouvais fort bien pour l'ordinaire, quelquefois fort mal quand j'étais surpris. Un souvenir qui me fait frémir encore et rire tout à la fois est celui d'une chasse aux pommes qui me coûta cher. Ces pommes étaient au fond d'une dépense qui, par une jalousie élevée, recevait du jour de la cuisine. Un jour que j'étais seule dans la maison, je montai sur la mets pour regarder dans le jardin des Hespérides ce précieux fruit dont je ne pouvais approcher. J'allai chercher la broche pour voir si elle y pourrait atteindre. Elle était trop courte. Je l'allongeai par une autre petite broche qui servait pour le menu gibier, car mon maître aimait la chasse. Je piquai plusieurs fois sans succès. Enfin, je sentis avec transport que j'amenais une pomme. Je tirai très doucement. Déjà, la pomme touchait à la jalousie. J'étais prêt à la saisir. Qui dira ma douleur? La pomme était trop grosse. Elle ne put passer par le trou. Que d'inventions ne mis-je point en usage pour la tirer. Il fallut trouver des supports pour tenir la broche en état, un couteau assez long pour fendre la pomme, une latte pour la soutenir. À force d'adresse et de temps, je parvins à la partager, espérant tirer ensuite les pièces l'une après l'autre. Mais à peine furent-elles séparées qu'elles tombèrent toutes deux dans la dépense. Lecteur pitoyable, partagez mon affliction. Je ne perdis point courage, mais j'avais perdu beaucoup de temps. Je craignais d'être surpris. Je renvoie au lendemain une tentative plus heureuse, et je me remets à l'ouvrage tout aussi tranquillement que si je n'avais rien fait, sans songer aux deux témoins indiscrets qui déposaient contre moi dans la dépense. Le lendemain, retrouvant l'occasion belle, je tente un nouvel essai. Je monte sur mes tréteaux, j'allonge la broche, je l'ajuste, j'étais prêt à piquer. Malheureusement, le dragon ne dormait pas. Tout à coup, la porte de la dépense s'ouvre. Mon maître en sort, croise les bras, me regarde et me dit « Courage !» La plume me tombe des mains. Bientôt, à force d'essuyer de mauvais traitements, j'y devins moins sensible. Ils me parurent enfin une sorte de compensation du vol qui me mettait en droit de le continuer. Au lieu de retourner les yeux en arrière et de regarder la punition, je les portais en avant et je regardais la vengeance. Je jugeais que me battre comme fripon, c'était m'autoriser à l'être. Je trouvais que voler et être battu allaient ensemble et constituaient en quelque sorte un état, et qu'en remplissant la partie de cet état qui dépendait de moi, je pouvais laisser le soin de l'autre à mon maître. Sur cette idée, je me mis à voler plus tranquillement qu'auparavant. Je me disais « Qu'en arrivera-t-il, enfin? Je serai battu. Soit, je suis fait pour l'être. » J'aime à manger sans être avide. Je suis sensuel et non pas gourmand. Trop d'autres goûts me distraient de celui-là. Je ne me suis jamais occupé de ma bouche que quand mon cœur était oisif. Et cela m'est si rarement arrivé dans ma vie que je n'ai guère eu le temps de songer au bon morceau. Voilà pourquoi je ne bornais pas longtemps ma friponnerie au comestible. Je l'étendis bientôt à tout ce qui me tentait. Et si je ne devins pas un voleur en forme, c'est que je n'ai jamais été beaucoup tenté d'argent. Dans le cabinet commun, mon maître avait un autre cabinet à part, qui fermait à clef. Je trouvai le moyen d'en ouvrir la porte et de la refermer sans qu'il y parût. Là, je mettais à contribution ses bons outils, ses meilleurs dessins, ses empreintes, tout ce qui me faisait envie et qu'il affectait d'éloigner de moi. Dans le fond, ses vols étaient bien innocents, puisqu'il n'était fait que pour être employé à son service. Mais j'étais transporté de joie d'avoir ces bagatelles en mon pouvoir. Je croyais voler le talent avec ses productions. Du reste, il y avait dans des boîtes des recoupes d'or et d'argent, de petits bijoux, des pièces de prix, de la monnaie. Quand j'avais 4 ou 5 sous dans ma poche, c'était beaucoup. Cependant, loin de toucher à rien de tout cela, je ne me souviens pas même d'y avoir jeté de ma vie un regard de convoitise. Je le voyais avec plus d'effroi que de plaisir. Je crois bien que cette horreur du vol de l'argent et de ce qui en produit me venait en grande partie de l'éducation. Il se mêlait à cela des idées secrètes d'infamie, de prison, de châtiment, de potence, qui m'auraient fait frémir si j'avais été tentée. Au lieu que mes tours ne me semblaient que des espiègleries, et n'étaient pas autre chose en effet. Tout cela ne pouvait valoir que d'être bien étrillé par mon maître, et d'avance je m'arrangeais là-dessus. Mais, encore une fois, je ne convoitais pas même assez pour avoir à m'abstenir. Je ne sentais rien à combattre. Une seule feuille de beau papier à dessiner me tentait plus que l'argent pour en payer une rame. Cette bizarrerie tient à une des singularités de mon caractère. Elle a eu tant d'influence sur ma conduite qu'il importe de l'expliquer. J'ai des passions très ardentes, et tandis qu'elles m'agitent, rien n'égale mon impétuosité. Je ne connais plus ni ménagement, ni respect, ni crainte, ni bienséance. Je suis cynique, effronté, violent, intrépide. Il n'y a ni honte qui m'arrête, ni danger qui m'effraie. Or, le seul objet qui m'occupe, l'univers n'est plus rien pour moi. Mais tout cela ne dure qu'un moment, et le moment qui suit me jette dans l'anéantissement. Prenez-moi dans le calme. Je suis l'indolence et la timidité même. Tout m'effarouche, tout me rebute. Une mouche en volant me fait peur. Un mot à dire, un geste à faire, épouvante ma paresse. La crainte et la honte me subjuguent à tel point que je voudrais m'éclipser aux yeux de tous les mortels. S'il faut agir, je ne sais que faire. S'il faut parler, je ne sais que dire. Si l'on me regarde, je suis décontenancé. Quand je me passionne, je sais trouver quelquefois ce que j'ai à dire. Mais dans les entretiens ordinaires, je ne trouve rien, rien du tout. Ils me sont insupportables, par cela seul que je suis obligé de parler. Ajoutez qu'aucun de mes goûts dominants ne consiste en choses qui s'achètent. Il ne me faut que des plaisirs purs, et l'argent les empoisonne tous. J'aime, par exemple, ceux de la table. Mais, ne pouvant souffrir ni la gêne de la bonne compagnie, ni la crapule du cabaret, je ne puis les goûter qu'avec un ami. Car seul, cela ne m'est pas possible. Mon imagination s'occupe alors d'autre chose, et je n'ai pas le plaisir de manger. Si mon sang allumé me demande des femmes, mon cœur ému me demande encore plus de l'amour. Des femmes, à prix d'argent, perdraient pour moi tout leur charme. Je doute même s'il serait en moi d'en profiter. Il en est ainsi de tous les plaisirs à ma portée. S'ils ne sont gratuits, je les trouve insipides. J'aime les seuls biens qui ne sont à personne qu'au premier qui sait les goûter. Jamais l'argent ne me parut une chose aussi précieuse qu'on la trouve. Bien plus, il ne m'a même jamais paru fort commode. Il n'est bon à rien par lui-même. Il faut le transformer pour en jouir. Il faut acheter, marchander, souvent être dupe, bien payé, être mal servi. Je voudrais une chose bonne dans sa qualité. Avec mon argent, je suis sûr de l'avoir mauvaise. J'achète cher un œuf frais, il est vieux. Un beau fruit, il est vert. Une fille, elle est gâtée. J'aime le bon vin, mais où en prendre ? Chez un marchand de vin ? Comme que je fasse, il m'empoisonnera. Veux-je absolument être bien servi ? Que de soins, que d'embarras. Avoir des amis, des correspondants, donner des commissions, écrire, aller, venir, attendre, et souvent, au bout, être encore trompé. Que de peine avec mon argent. Je la crains plus que je n'aime le bon vin. Mille fois, durant mon apprentissage, et depuis, je suis sorti dans le dessein d'acheter quelques friandises. J'approche de la boutique d'un pâtissier, j'aperçois des femmes au comptoir, je crois déjà les voir rire et se moquer entre elles du petit gourmand. Je passe devant une fruitière, je lorgne du coin de l'œil de belles poires, leur parfum me tente, deux ou trois jeunes gens tout près de là me regardent. Un homme qui me connaît est devant sa boutique, je vois de loin venir une fille, n'est-ce point la servante de la maison? Ma vue courte me fait mille illusions. Je prends tout ce qui passe pour des gens de ma connaissance. Partout, je suis intimidée, retenue par quelque obstacle. Mon désir croît avec ma honte, et je rentre enfin comme un sot, dévoré de convoitise, ayant dans ma poche de quoi la satisfaire, et n'ayant osé rien acheter. J'entrerai dans les plus insipides détails si je suivais dans l'emploi de mon argent, soit par moi, soit par d'autres, l'embarras, la honte, la répugnance, les inconvénients, les dégoûts de toute espèce que j'ai toujours éprouvés. À mesure qu'avançant dans ma vie, le lecteur prendra connaissance de mon humeur, il sentira tout cela sans que je m'appesantisse à le lui dire. Cela compris, on comprendra sans peine une de mes prétendues contradictions, celle d'allier une avarice presque sordide avec le plus grand mépris pour l'argent. C'est un meuble pour moi si peu commode que je ne m'avise pas même de désirer celui que je n'ai pas, et que, quand j'en ai, je le garde longtemps sans le dépenser, faute de savoir l'employer à ma fantaisie. Mais l'occasion commode et agréable se présente-t-elle, j'en profite si bien que ma bourse se vide avant que je m'en sois aperçu. Du reste, ne cherchez pas en moi le tic des avares, celui de dépenser pour l'ostentation. Tout au contraire, je dépense en secret et pour le plaisir. Loin de me faire gloire de dépenser, je m'en cache. Je sens si bien que l'argent n'est pas à mon usage que je suis presque honteux d'en avoir, encore plus de m'en servir. Si j'avais eu jamais un revenu suffisant pour vivre commodément, je n'aurais point été tenté d'être avare, j'en suis très sûr. Je dépenserais tout mon revenu sans chercher à l'augmenter. Mais ma situation précaire me tient en crainte. J'adore la liberté, j'aborde la gêne, la peine, l'assujettissement. Tant que dure l'argent que j'ai dans ma bourse, il assure mon indépendance. Il me dispense de m'intriguer pour en trouver d'autres, nécessité que j'eus toujours en horreur. Mais de peur de le voir finir, je le choisis. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté. Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Voilà pourquoi je sers bien et ne convoite rien. Mon désintéressement n'est donc que paresse. Le plaisir d'avoir ne vaut pas la peine d'acquérir, et ma dissipation n'est encore que paresse. Quand l'occasion de dépenser agréablement se présente, on ne peut trop la mettre à profit. Je suis moins tenté de l'argent que des choses, parce qu'entre l'argent et la possession désirée, il y a toujours un intermédiaire. Au lieu qu'entre la chose même et sa jouissance, il n'y en a point. Je vois la chose, elle me tente. Si je ne vois que le moyen de l'acquérir, il ne me tente pas. J'ai donc été fripon, et quelquefois je le suis encore de bagatelles qui me tentent, et que j'aime mieux prendre que demander. Mais, petit ou grand, je ne me souviens pas d'avoir pris de ma vie un liard à personne. Or, une seule fois, il n'y a pas 15 ans, que je volais 7 livres 10 sous. L'aventure vaut la peine d'être contée, car il s'y trouve un concours impayable d'effronterie et de bêtises que j'aurais peine moi-même à croire s'il regardait un autre que moi. C'était à Paris. Je me promenais avec Monsieur de Franqueuil au Palais-Royal sur les 5 heures. Il tire sa montre, la regarde et me dit « Allons à l'opéra ». Je le veux bien, nous allons. Il prend 2 billets d'amphithéâtre, m'en donne un et passe le premier avec l'autre. Je le suis, il entre. En entrant après lui, je trouve la porte embarrassée. Je regarde, je vois tout le monde debout. Je juge que je pourrais bien me perdre dans cette foule. ou du moins laisser supposer à M. de Franqueuil que j'y suis perdu. Je sors, je reprends ma contremarque, puis mon argent, et je m'en vais, sans songer qu'à peine avais-je atteint la porte que tout le monde était assis, et qu'alors M. de Franqueuil voyait clairement que je n'y étais plus. Comme jamais rien ne fut plus éloigné de mon humeur que ce trait-là, je le note, pour montrer qu'il y a des moments d'une espèce de délire où il ne faut point juger des hommes par leurs actions. Ce n'était pas précisément voler cet argent, c'était en voler l'emploi. Moins, c'était un vol. Plus, c'était une infamie. Je ne finirai pas ces détails si je voulais suivre toutes les routes par lesquelles, durant mon apprentissage, je passais de la sublimité de l'héroïsme à la bassesse d'un vaurien. Cependant, en prenant les vices de mon état, il me fut impossible d'en prendre tout à fait les goûts. Je m'ennuyais des amusements de mes camarades, et quand la trop grande gêne m'eut aussi rebuté du travail, je m'ennuyais de tout. Cela me rendit le goût de la lecture que j'avais perdu depuis longtemps. Ces lectures, prises sur mon travail, devinrent un nouveau crime qui m'attira de nouveaux châtiments. Ce goût irrité par la contrainte devint passion, bientôt fureur. La tribu, fameuse loueuse de livres, m'en fournissait de toute espèce. Bons et mauvais, tout passait, je ne choisissais point. Je lisais tout avec une égale avidité. Je lisais à l'établi, je lisais en allant faire mes messages, je lisais à la garde-robe, et m'y oubliais des heures entières. La tête me tournait de la lecture, je ne faisais plus que lire. Mon maître m'épiait, me surprenait, me battait, me prenait mes livres. Que de volumes furent déchirés, brûlés, jetés par les fenêtres. Que d'ouvrages restèrent dépareillés chez la tribu. Quand je n'avais plus de quoi la payer, je lui donnais mes chemises, mes cravates, mes hardes. Mes 3 sous d'étrenne tous les dimanches lui étaient régulièrement portés. « Voilà donc, me dira-t-on, l'argent devenu nécessaire. » Il est vrai, mais ce fut quand la lecture m'eut ôté toute activité. Livré tout entier à mon nouveau goût, je ne faisais plus que lire, je ne volais plus. C'est encore ici une de mes différences caractéristiques. Au fort d'une certaine habitude d'être, un rien me distrait, me change, m'attache, enfin me passionne. Et alors, tout est oublié, je ne songe plus qu'au nouvel objet qui m'occupe. Le cœur me battait d'impatience de feuilleter le nouveau livre que j'avais dans la poche. Je le tirais aussitôt que j'étais seule et ne songeais plus à fouiller le cabinet de mon maître. J'ai même peine à croire que j'eusse volé. Quand même, j'aurais eu des passions plus coûteuses. Borné au moment présent, il n'était pas dans mon tour d'esprit de m'arranger ainsi pour l'avenir. La tribu me faisait crédit, les avances étaient petites, et quand j'avais empoché mon livre, je ne songeais plus à rien. L'argent qui me venait naturellement passait de même à cette femme, et quand elle devenait pressante, rien n'était plus tôt sous ma main que mes propres effets. Voler par avance était trop de prévoyance, et voler pour payer n'était pas même une tentation. À force de querelles, de coups, de lectures dérobées et mal choisies, mon humeur devint taciturne, sauvage. Ma tête commençait à s'altérer, et je vivais en vrai loup-garou. Cependant, si mon goût ne me préserva pas des livres plats et fades, mon bonheur me préserva des livres obscènes et licencieux. Non que la tribu, femme à tous égards très accommodante, se fit un scrupule de m'en prêter. Mais, pour les faire valoir, elle me les nommait avec un air de mystère qui me forçait précisément à les refuser, tant par dégoût que par honte. Et le hasard seconda si bien mon humeur pudique que j'avais plus de 30 ans avant que j'eusse jeté les yeux sur aucun de ces dangereux livres qu'une belle dame de par le monde trouve incommode, en ce qu'on ne peut les lire que d'une main. En moins d'un an, j'épuisais la mince boutique de la tribu. Et alors, je me trouvais dans mes loisirs cruellement désœuvré. Guéri de mes goûts d'enfant et de polisson par celui de la lecture, et même par mes lectures, qui, bien que sans choix et souvent mauvaises, ramenaient pourtant mon cœur à des sentiments plus nobles que ceux que m'avait donné mon état. Dégoûté de tout ce qui était à ma portée, et sentant trop loin de moi tout ce qui m'aurait tenté, je ne voyais rien de possible qui pût flatter mon cœur. Mes sens, émus depuis longtemps, me demandaient une jouissance dont je ne savais pas même imaginer l'objet. J'étais aussi loin du véritable que si je n'avais point eu de sexe. Et déjà pubère et sensible, je pensais quelquefois à mes folies, mais je ne voyais rien au-delà. Dans cette étrange situation, mon inquiète imagination prit un parti qui me sauva de moi-même et calma ma naissante sensualité. Ce fut de se nourrir des situations qui m'avaient intéressé dans mes lectures, de les rappeler, de les varier, de les combiner, de me les approprier tellement que je devinsse un des personnages que j'imaginais, que je me visse toujours dans les positions les plus agréables selon mon goût. Enfin, que l'état fictif où je venais à bout de me mettre me fit oublier mon état réel, dont j'étais si mécontent. Cet amour des objets imaginaires et cette facilité de m'en occuper achevèrent de me dégoûter de tout ce qui m'entourait et déterminèrent ce goût pour la solitude qui m'est toujours resté depuis ce temps-là. On verra plus d'une fois dans la suite les bizarres effets de cette disposition si misanthrope et si sombre en apparence, mais qui vient en effet d'un cœur trop affectueux, trop aimant, trop tendre, qui, faute d'en trouver d'existant qui lui ressemble, est forcé de s'alimenter de fiction. Il me suffit, quant à présent, d'avoir marqué l'origine et la première cause d'un penchant qui a modifié toutes mes passions, et qui, les contenant par elle-même, m'a toujours rendu paresseux à faire, par trop d'ardeur, à désirer. J'atteignis ainsi ma 16e année, inquiet, mécontent de tout et de moi, sans goût de mon état, sans plaisir de mon âge, dévoré de désirs dont j'ignorais l'objet, pleurant sans sujet de larmes, soupirant sans savoir de quoi, enfin caressant tendrement mes chimères, faute de rien voir autour de moi qui les valût. Les dimanches, mes camarades venaient me chercher après le prêche pour aller m'ébattre avec eux. Je leur aurais volontiers échappé si j'avais pu, mais une fois en train dans leur jeu, j'étais plus ardent et j'allais plus loin qu'aucun autre, difficile à ébranler et à retenir. Ce fut là de tout temps ma disposition constante. Dans nos promenades hors de la ville, j'allais toujours en avant, sans songer au retour, à moins que d'autres n'y songeassent pour moi. J'y fus pris deux fois. Les portes furent fermées avant que je pusse arriver. Le lendemain, je fus traité comme on s'imagine. Et la seconde fois, il me fut promis un tel accueil pour la troisième que je résolus de ne m'y pas exposer. Cette troisième fois si redoutée arriva pourtant. Ma vigilance fut mise en défaut par un maudit capitaine appelé Monsieur Minutoli, qui fermait toujours la porte où il était de garde une demi-heure avant les autres. Je revenais avec deux camarades. À 2 lieues de la ville, j'entends sonner la retraite. Je double le pas, j'entends battre la caisse, je cours à toutes jambes, j'arrive essoufflé, tout en nage. Le cœur me bat. Je vois de loin les soldats à leur poste. J'accours, je crie d'une voix étouffée. Il était trop tard. À 20 pas de l'avancée, je vois lever le premier pont. Je frémis en voyant en l'air ces cornes terribles, sinistre et fatal augure du sort inévitable que ce moment commençait pour moi. Dans le premier transport de ma douleur, je me jetai sur les glacis et mordis la terre. Mes camarades, riant de leur malheur, prirent à l'instant leur parti. Je pris aussi le mien, mais ce fut d'une autre manière. Sur le lieu même, je jurai de ne retourner jamais chez mon maître. Et le lendemain, quand à l'heure de la découverte ils rentrèrent en ville, je leur dis adieu pour jamais, les priant seulement d'avertir en secret mon cousin Bernard de la résolution que j'avais prise et du lieu où il pourrait me voir encore une fois. À mon entrée en apprentissage, étant plus séparé de lui, je le vis moins. Toutefois, durant quelque temps, nous nous rassemblions les dimanches. Mais insensiblement, chacun prit d'autres habitudes et nous nous vîmes plus rarement. Je suis persuadée que sa mère contribua beaucoup à ce changement. Il était, lui, un garçon du haut. Moi, chétif apprenti, je n'étais plus qu'un enfant de Saint-Gervais. Il n'y avait plus entre nous d'égalité, malgré la naissance. C'était déroger que de me fréquenter. Cependant, les liaisons ne cessèrent point tout à fait entre nous, et comme c'était un garçon d'un bon naturel, il suivait quelquefois son cœur, malgré les leçons de sa mère. Instruit de ma résolution, il accourut, non pour m'en dissuader ou la partager, mais pour jeter, par de petits présents, quelque agrément dans ma fuite, car mes propres ressources ne pouvaient me mener fort loin. Il me donna, entre autres, une petite épée dont j'étais fort épris et que j'ai portée jusqu'à Turin, où le besoin m'en fit défaire, et où je me la passais, comme on dit, au travers du corps. Plus j'ai réfléchi depuis à la manière dont il se conduisit avec moi dans ce moment critique, plus je me suis persuadée qu'il suivit les instructions de sa mère, et peut-être de son père, car il n'est pas possible que de lui-même il n'eût fait quelque effort pour me retenir ou qu'il n'eût tenté de me suivre. Mais point. Il m'encouragea dans mon dessein plutôt qu'il ne m'en détourna. Puis, quand il me vit bien résolu, il me quitta, sans beaucoup de larmes. Nous ne nous sommes jamais écrits ni revus. C'est dommage. Il était d'un caractère essentiellement bon. Nous étions faits pour nous aimer. Avant de m'abandonner à la fatalité de ma destinée, qu'on me permette de tourner un moment les yeux sur celle qui m'attendait naturellement, si j'étais tombée dans les mains d'un meilleur maître. Rien n'était plus convenable à mon humeur, ni plus propre à me rendre heureux que l'état tranquille et obscur d'un bon artisan, dans certaines classes surtout, telle qu'est à Genève celle des graveurs. Cet état, assez lucratif pour donner une subsistance aisée, et pas assez pour mener à la fortune, eût borné mon ambition pour le reste de mes jours. Et me laissant un loisir honnête pour cultiver des goûts modérés, il m'eût contenu dans ma sphère sans m'offrir aucun moyen d'en sortir. Ayant une imagination assez riche pour orner de ses chimères tous les états, assez puissante pour me transporter, pour ainsi dire, à mon gré de l'un à l'autre, il m'importait peu dans lequel je fusse en effet. Il ne pouvait y avoir si loin du lieu où j'étais au premier château en Espagne qu'il ne me fût aisé de m'y établir. De cela seul, il suivait que l'état le plus simple, celui qui donnait le moins de tracas et de soins, celui qui laissait l'esprit le plus libre, était celui qui me convenait le mieux. Et c'était précisément le mien. J'aurais passé dans le sein de ma religion, de ma patrie, de ma famille et de mes amis, une vie paisible et douce, telle qu'il la fallait à mon caractère, dans l'uniformité d'un travail, de mon goût et d'une société selon mon cœur. J'aurais été bon chrétien, bon citoyen, bon père de famille, bon ami, bon ouvrier, bon homme en toutes choses. J'aurais aimé mon état, je l'aurais honoré peut-être. Et, après avoir passé une vie obscure et simple, mais égale et douce, je serais mort paisiblement dans le sein des miens. Bientôt oublié, sans doute, j'aurais été regretté du moins aussi longtemps qu'on se serait souvenu de moi. Au lieu de cela, quel tableau vais-je faire? Ah, n'anticipons point sur les misères de ma vie. Je n'occuperai que trop mes lecteurs de ce triste sujet.